La question de la beauté, c'est une question qui paraît très, très sympathique, mais qu'en fait n'est pas facile. Je pensais là d'abord, bien sûr je vais parler de la beauté sous l'angle psychanalytique, mais je crois que c'est intéressant aussi de relever que la notion d'empathie est née en Allemagne à la fin du 19e siècle, d'une discipline qui n'est plus très en vogue, je crois, aujourd'hui, qu'on appelait la psychologie esthétique. Pourquoi on trouve beau? Pourquoi trouve-t-on beau tel paysage, tel objet, tel tableau, telle personne? Et c'est une question que ces psychologues se posaient. Et la première idée qui est, enfin, la première, je ne suis pas sûr que ce soit la première, enfin, une idée fondamentale qui leur est venue, c'est cette notion d'empathie qui est très compliquée d'ailleurs dans les écrits de l'époque, parce qu'il y a plusieurs sortes d'empathie, mais au fond, c'est l'idée que le sujet projette quelque chose de lui dans ce paysage, dans cet objet, dans ce tableau, dans cette personne reconnue comme beau, qui inspire un sentiment de beauté. Et c'est ça qui a donné l'idée de l'empathie, qui est souvent confondue avec la sympathie, hein, alors que c'est deux notions qui sont très différentes. L'empathie dans le sens d'une sorte de communication émotionnelle, affective, très, très archaïque, très inné, entre soi et le monde extérieur, entre soi et les autres sujets humains, mais aussi pour ces psychologues de la fin du XIXe siècle, entre soi et la nature. Ce que les Allemands ont appelé Einfühlung, qui veut dire sentir dedans, éprouver à l'intérieur de soi, et qui a été traduit en français par des racines grecques, empathein, qui veut dire la même chose, empathie. Alors, je crois important de souligner, parce que parfois c'est méconnu ou nié même, que Freud a repris cette notion d'empathie. Il n'a pas du tout situé l'attitude analytique comme sans empathie ou extérieur à l'empathie, comme une sorte d'attitude impassible et réfrigérée devant les phénomènes émotionnels et affectifs de l'analysant. Pas du tout. J'insiste là-dessus parce que dans certains courants modernes de la psychanalyse, c'est la position qui est défendue. Que surtout, il ne faut pas être empathique. Alors que Freud fondait la notion d'identification, qui est absolument essentielle dans sa théorie, et notamment dans sa deuxième théorie, ce qu'on appelle la deuxième topique, ça, moi, sur moi, la constitution du moi, qui est le cœur de la personnalité, se fait à partir de processus d'identification, qui sont fondés, nous dit-il, sur l'imitation et l'empathie. Donc, autrement dit, le psychanalyste doit développer au maximum ses capacités d'empathie avec ses patients. Il y a un auteur italien qui a beaucoup développé ça, qui a été tout récemment président de la société, de l'Association internationale de psychanalystes, c'est Stefano Bolognini. Mais Freud s'écartait de la notion de beauté qui est à l'origine de cette notion d'empathie pour retenir seulement cette communication affective de sujet à sujet, cette possibilité que nous avons et qui sont absolument fondamentales dans l'expérience humaine et dans le développement de l'enfant, de l'adolescent, jusqu'à l'âge adulte, et dans la relation amoureuse, dans toutes les relations très intimes, d'éprouver à l'intérieur de soi quelque chose de ce que l'autre éprouve. Ce qui est différent de la sympathie, hein, parce que la sympathie, c'est une espèce d'attitude de consolation, voire de commisération. Alors que l'empathie se situe beaucoup plus du côté d'un moyen de connaissance, d'un moyen pour connaître l'autre, de pouvoir éprouver, avoir cette sorte de résonance. Le mot résonance est de moi, hein. Je ne crois pas que les auteurs en question l'aient utilisé, mais je trouve qu'il est éclairant. Résonance émotionnelle interne. Alors, il y a un auteur beaucoup plus récent qui est revenu sur la question de la beauté, et que j'ai très bien connu, c'est Donald Melzer. Donald Melzer, qui a écrit un livre très important au milieu des années 1980, je crois que c'est exactement 1985, qu'il a intitulé « L'appréhension de la beauté ». En anglais, « The Apprehension of Beauty », la traduction est littérale. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est assez compliqué, mais c'est très intéressant. Ce qu'il nous dit, c'est que le bébé in utero, le fœtus, il a déjà une vie pulsionnelle. Et au fur et à mesure qu'on approche de la fin de la gestation, il a comme une pulsion à naître. Ses sens sont matures. Il entend, il perçoit des lumières tamisées, mais il les perçoit. Il goûte le liquide amniotique, il a des capacités aussi olfactives, etc. Et il touche beaucoup. C'est des explorations échographiques que l'on vient montrer maintenant. Mais de plus en plus, au fur et à mesure qu'il se développe, la matrice utérine devient contraignante et le bébé aurait, je mets ça au conditionnel parce que évidemment ce sont des hypothèses, aurait comme une pulsion à naître et notamment pour exercer ses canaux sensoriels qui sont matures physiologiquement, mais qui sont déprivés d'une certaine façon in utero, parce que c'est quand même un endroit très très fermé où les stimulations extérieures sont extrêmement réduites et très tamisées. Alors l'expérience de la naissance est dans sa description une expérience très intense de découverte. De découvrir ce que Melzer appelle la beauté du monde et la beauté de l'objet. Et pour Melzer, qui est dans la filiation de Melanie Klein, l'objet c'est la mère et même plus précisément le sein maternel, le mamelon sein de la mère, avec tout ce que ça représente, bien sûr aussi comme fonction nourricière de toutes sortes et comme fonction pas seulement physiologique mais aussi psychique. Mais il y a une sorte d'écart, et d'écart qui peut devenir infranchissable dans certaines situations, entre l'intensité des stimulations qu'il reçoit, qui est plutôt excessive, qui le submerge, et qui lui donnerait, selon Melzer, un sentiment esthétique très très intense. Et puis, la connaissance qu'il a de ce monde, qui est totalement inconnue pour lui, de même que la mère ou le sein. Enfin, il y a une sorte de gradient, si vous voulez, entre les stimulations de surface, recueillies par les sens, et la connaissance plus intime et plus intérieure de l'objet, de la mère. D'où cette phrase qui est restée très très présente dans tous ceux qui ont suivi et entendu Melzer, qu'il avait prononcée un jour dans une conférence à Paris. Il prêtait au bébé cette phrase: « Est-ce que c'est aussi beau à l'intérieur. Il est assailli de cette impression émerveillante et même excessive, mais il est totalement dans l'obscurité, dans l'incertitude sur qu'est-ce qu'il y a au-delà. Qu'est-ce que ça cache, on pourrait même dire. Et est-ce que ça cache des choses, au contraire, très menaçantes. Un peu la thématique du diable déguisé en sacristain, hein, ou du petit chaperon rouge, du loup déguisé en grand-mère. Ben, toutes ces thématiques qui sont extrêmement présentes dans la prime enfance, et que Mélanie Klein a décrite d'ailleurs, sous le nom de position schizoparanoïde. Mais qu'elle avait décrite comme une première position où le bébé investit un objet, idéalise cet objet qu'il investit, ça je parle de Mélanie Klein. Il a déjà un moi pour Mélanie Klein qui lui permet d'investir l'objet. Mais ce moi, il est fragile, il est menacé, il est peu tolérant à la frustration, et donc il est obligé de cliver l'objet en bon et mauvais. Donc il a nécessairement un bon objet idéalisé et un mauvais objet persécuteur dans son fantasme. C'est la position schizoparanoïde qui va se résoudre progressivement par une sorte de réintégration des différents aspects de l'objet qui est toujours le même, hein, mais qui a été... Alors que Melzer renverse. Alors la deuxième position d'intégration, c'est ce que Mélanie Klein a appelé la position dépressive. Melzer renverse cet ordre en disant, mais ce qui amène l'enfant à cliver, c'est cet inconnu de ce qu'il y a dedans, ce sentiment d'inquiétude, voire de menace, qu'il faut évacuer. Pour échapper à une dépression primaire, qui est cette espèce d'incapacité, justement, où se trouverait le bébé, et ça c'est assez convaincant, de connaître, de résoudre l'énigme. Est-ce que c'est aussi beau à l'intérieur ? Autrement dit, la beauté pour Melzer est source à la fois d'investissement du monde, de l'autre, de la relation à l'autre, et en même temps lieu d'incertitude, voire de menace. J'ai résumé cette théorie qui est assez complexe, mais qui lui permet de rendre compte de certaines pathologies extrêmement précoces, extrêmement massives, comme par exemple l'autisme infantile. L'enfant autiste serait l'enfant qui serait incapable de tolérer ce que Melzer a décrit comme le conflit esthétique, qui n'est pas vraiment un conflit, hein. C'est plus ce gradient que j'ai essayé de décrire. Incapable, tellement incapable de tolérer, c'est comme si, je pense en vous disant ça, à ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de Stendhal. Stendhal avait fait un voyage à Florence, et il en était revenu complètement bouleversé par la beauté de Florence. Et c'est avec un excès de beauté qui tout d'un coup vous saisit, s'accompagne d'une sorte de sentiment d'inquiétude, et qui peut être extrême et qui peut être désorganisant. Donc il décrit ça comme un conflit, mais bon, en fait c'est plus ce gradient. L'enfant autiste, eh ben, il abandonne la partie en quelque sorte, parce qu'il ne peut pas tolérer cette confrontation à l'objet esthétique et à cet inconnu. Est-ce que c'est aussi beau à l'intérieur ? Et il se retranche sur ses sensations, sur ses stéréotypies, sur ses sensations muqueuses, cutanées, etc. Mais, ce faisant, il perd la possibilité de développer son psychisme. Parce que c'est dans la relation à l'objet que le développement psychique peut se faire. Alors, je voudrais encore ajouter un mot, parce que je m'y suis intéressé. C'est très frappant de voir comment certains scientifiques décrivent, je ne parle pas des artistes, mais j'imagine que pour les artistes c'est aussi bien sûr le cas, mais des scientifiques, on s'attend beaucoup moins à ça, hein, notamment les mathématiciens, leur processus de découverte, il est toujours marqué par ce sentiment de beauté. Et c'est ça qui les motive, hein, et c'est ça qui les éprône en quelque sorte, hein, pour travailler dur, souvent très très dur. Je me suis intéressé à un grand génie des mathématiques, mais qui a fini bizarrement ermite, plus ou moins, dans les Pyrénées, Grothendieck, qui travaillait la nuit. Parce que ses nuits à travailler quand il était encore actif comme mathématicien. Et ce vers quoi se dirige leur recherche, c'est une belle démonstration, un beau modèle, quelque chose qui les émerveille. C'est très intéressant dans les écrits de Grothendieck, parce qu'il a écrit des milliers et des milliers de pages, de voir comme il relie ça à la toute petite enfance, à la quête de l'objet maternel. Il le dit, il n'est pas psychanalyste, il ne connaît rien à tout ce que je viens de vous raconter, mais il le dit explicitement. C'est comme la recherche, une retrouvaille en quelque sorte, de cette mère du début de l'existence. Alors on trouve une sorte de lien, évidemment très complexe, entre ce point extrême de la pensée et de l'abstraction du côté des mathématiques, et puis cette source et cette origine très très primitive du sentiment de la beauté. Voilà un petit peu mon commentaire.